Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de Radio Serré, soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire. Votre émission Santé pour tous marque un arrêt aujourd'hui sur le VIH-Sida. En posture d'invités pour en parler, nous recevons le docteur Souraya Hamann, médecin pédiatre et coordonnatrice du centre de traitement agréé pour la prise en charge du VIH à l'hôpital régional de Marois. Grâce à son expertise, nous allons décrypter cette pathologie qui peut devenir chronique pour les personnes qui en souffrent si elles ne sont pas convenablement prises en charge. La mise en onde de cette émission est assurée par Maxino à la technique, David Bayan à la coordination et moi, Steve Febi, au micro de présentation. Installez-vous confortablement, Santé pour tous, ça démarre dans une fraction de seconde. Chers auditeurs, une fois de plus, soyez les bienvenus à l'écoute de votre magazine Santé pour tous sur les ondes de Radio Serré Volcan FM. Le VIH reste un problème majeur de santé publique de portée mondiale. Selon les chiffres de ONU-SIDA, près de 39 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2021 dans le monde, dont 1,5 million de personnes nouvellement infectées au cours de cette même année. En Afrique subsaharienne, cette maladie touche plus les femmes et les filles. Pour la seule année 2021, ces deux couches sociales représentaient 63% des personnes nouvellement infectées. Pour la même période et sur l'ensemble de la population vivant avec le VIH, seuls 85% connaissent leur statut, dont 75% avaient accès à un traitement et 68% avaient une charge virale indétectable. Cela démontre à suffit l'importance de l'adhésion au traitement par les personnes infectées. Il n'existe en effet pas de moyen de guérir l'infection à VIH. Cependant, grâce à un meilleur accès à une prévention, à un diagnostic, à un traitement et à des soins efficaces, y compris pour les infections opportunistes, l'infection à VIH est devenue une pathologie chronique qui peut être prise en charge avec la possibilité de vivre longtemps et en bonne santé. Selon son plan stratégique national 2021-2023, le Cameroun veut d'ici 2023 réduire de 60% les nouvelles infections, de 70% la mortalité liée au VIH, améliorer de 50% la qualité de vie des personnes infectées et ou affectées par le VIH et augmenter de 50% la qualité de la gouvernance de la réponse nationale. Ces objectifs pourraient connaître des résultats différenciés d'une région à l'autre du pays. Les régions défavorisées comme celles de l'extrême nord font en effet face à plusieurs pesanteurs qui pourraient négativement impacter l'atteinte de tels objectifs. Comment sont pris en charge les personnes infectées au VIH dans notre région? Où en sont les avancées de la science dans la recherche des solutions pour combattre cette pathologie? Comment surmonter les pesanteurs socioculturelles et les stigmatisations auxquelles sont confrontés les patients ici chez nous? Nous allons en parler avec notre invité, mais tout d'abord, je vous propose d'écouter cet élément dans lequel nous avons testé les connaissances de certains auditeurs sur le VIH-Sida.
Le VIH est un virus qui se transmet de manière sexuelle ou par transfusion sanguine. Il n'y a pas de différence. Le VIH, c'est le virus. Le sida, c'est la maladie. Celui qui a été infecté par le virus a le sida. Pour éviter d'attraper le VIH, on demande généralement d'utiliser des préservatifs lors des rapports sexuels, de pratiquer la fidélité sexuelle, d'éviter d'utiliser des outils souillés. Voilà.
Je pense que la stigmatisation due au VIH à la maladie du sida ne doit pas forcément avoir lieu, mais après, je comprends aussi les personnes, quand on n'est pas assez informé sur la maladie et qu'on ne sait pas que c'est une maladie qui ne peut pas se transmettre facilement, on peut avoir des préjugés par rapport à cela. Mais quand on est bien informé, il n'y a pas de raison de stigmatiser ceux qui sont porteurs de la maladie. Pour les couples qui sont porteurs, dont l'un des partenaires est porteur du VIH-Sida, je ne trouve pas que ce soit vraiment une raison de divorcer ou de se séparer. Bon, à moins que ce soit peut-être une maladie due à l'infidélité de l'autre, mais on peut se séparer par rapport à l'infidélité, mais pas à cause de la maladie en elle-même, parce que c'est une maladie qui se soigne. Et à partir du moment où... Bon, pas qui se soigne, qui se contient, désolé. une maladie qui se contient à partir du moment où on suit bien son traitement, on n'a pas de soucis et on n'est même pas contagieux.
Si j'ai quelqu'un qui veut m'épouser et qui a le VIH, qui vient du jeu disponible, à partir du moment où il se traite convenablement, je n'ai pas de problème.
Le VIH, c'est un virus immunodéficient humain. La différence entre le VIH et le sida, c'est que le VIH, c'est le virus qui transmet, qui donne la maladie appelée le sida. C'est ça la différence. Donc le sida est la maladie même qui découle du virus du VIH. On attrape le VIH-sida premièrement par la voie sexuelle. On peut aussi contracter d'une manière aussi indirecte, c'est-à-dire par le biais d'un objet usé qu'un malade a eu à utiliser et que nous utilisons, qui a eu à contaminer, quoi, et que nous utilisons par après. Et de la mère à l'enfant aussi, sans toutefois de suivi médical. On peut attraper le VIH-Sida par la transfusion sanguine, c'est-à-dire si le donnant est contaminé. Ouais. Bon, l'hôpital peut savoir, c'est par les différents examens qu'on fait dans les banques de sang. On peut détecter si le donneur du sang n'est pas contaminé ou parce qu'il y a plusieurs examens qu'on le fait avant, le VIH comme pour l'hépatite et autres. Oui, pour éviter le VIH-Sida, il faut pratiquer l'abstinence sexuelle ou lors d'un rapport sexuel, il faut se protéger par l'utilisation des préservatifs. Bon, ceux qui ont déjà le VIH-Sida, on doit les considérer tous comme toute autre personne puisque c'est juste une anomalie le problème est de la santé et non un problème social. Si j'ai une fiancée qui est porteuse du VIH-Sida, bon, on ne pense pas que le mariage là aura lieu. Juste parce que si c'est qu'elle arrive à s'expliquer comment est-ce qu'elle a eu à contracter cette maladie, si c'est que c'est quelque chose qui s'est passé, ce n'est pas par sa volonté et autres, là c'est un peu différent. Mais si c'est que ça a été contracté lors de votre processus jusqu'à votre fiançaille là, c'est aussi une autre chose. Et si elle a eu à contracter dans un salon de coiffure, par exemple, on peut se marier, il n'y a pas de souci, puisqu'il y a une méthode thérapeutique donc, entre les couples dont l'un est porteur et l'autre n'est pas porteur. Oui, on peut avoir des enfants étant malades. Là, en ce moment, on doit seulement juste suivre les procédures. On peut éviter que l'enfant naisse avec VIH-Sida.
Le VIH, c'est une maladie sexuellement transmissible. Peut se transmettre aussi de la maman, de la femme enceinte à son fœtus, également par des objets souillés. Oui. Déjà pour la femme enceinte, il faut se rendre à l'hôpital pour suivre la CPN afin de pouvoir protéger le fœtus. Pour ceux qui ne sont pas encore atteints, sexuellement parlant, je dirais qu'il faut avoir des rapports sexuels protégés. Utiliser par exemple un préservatif. Le sida, c'est déjà la maladie. Le VIH, c'est juste un virus qui peut se soigner, à ce que je sache. Je me dis qu'on guérit du VIH sans avoir le sida, oui. En suivant les traitements, bien sûr, à l'hôpital. Je ne pense pas que le sida et le VIH soient la même chose. Donc, on peut vivre avec le VIH sans avoir le sida. Non. En embrassant quelqu'un qui a le VIH, on ne peut pas être contaminé. Sauf si c'est deux personnes ont des blessures, par exemple, dans la bouche. Là, il y a transmission du sang de l'un à l'autre. Là, oui, c'est possible. Non, on ne devrait pas stigmatiser ceux qui sont atteints du VIH. Nous sommes tous pareils. Il faudrait plutôt les soutenir pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Oui, c'est possible de vivre avec quelqu'un qui a le VIH sans toutefois avoir soi-même le VIH. Accepter un époux qui a le VIH. S'il a le VIH quand je l'ai connu, non, je n'accepterai pas. Mais s'il n'a pas le VIH et que c'est dans le mariage qu'on découvre ça, là, ok, pourrais supporter. Je ne sais pas que je le repousse, comme s'il n'était pas quelqu'un comme moi, quelqu'un à part. Je ne le repousse pas. Mais je ne vais pas sacrifier ma santé, parce que c'est courir un grand risque.
Selon moi, le VIH est une maladie due beaucoup plus par des rapports sexuels non protégés. Il y a aussi les objets souillés qu'on peut attraper le VIH-Sida. Mais de nos jours, beaucoup plus c'est par des rapports sexuels non protégés. Bon, la différence entre le VIH et le sida est que le VIH, c'est un virus qui est causé par la maladie qui est le sida. Bon, le sida, quant à lui, c'est un système immunitaire, donc c'est une maladie qui est là dans l'organisme, ça manifeste au moment opportun. On ne peut pas guérir totalement du VIH-Sida, mais on peut avoir des mesures préventives. Donc, on peut prendre des produits pour empêcher la manifestation du VIH-Sida. Bon, il faut d'abord éviter ce qui cause d'abord. Donc, il faut éviter les rapports sexuels non protégés, premièrement. Il faut prendre des préservatifs, beaucoup plus. Et aussi, il faut traiter les objets, les matériels où on utilise. On utilise la tondeuse, la lame de rasoir. Il faut les traiter. Bon, il y a l'alcool qu'on peut utiliser avec. Il y a aussi le feu. On brûle la partie là, on traite avant d'utiliser. Une personne qui a le VIH peut vivre normalement. Il se soigne, il peut vivre normalement, plus que même celui qui n'a pas. Parce que s'il respecte les mesures de prévention, il peut vivre normalement. Celui qui a le VIH et qui fait des rapports sexuels non protégés augmente le taux de mortalité. Parce qu'il donne et il reçoit aussi. Lui, il a plus de chances. Il n'aura même pas une longue durée de vie. Et en plus, il va partager cette maladie aux autres aussi. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Si j'ai une fille que je l'aime beaucoup et qu'elle a le VIH, là, je dois l'épouser. Et si je l'épouse, il faut obligatoirement prendre des mesures de prévention. Il faut trouver des produits et des moyens pour éviter qu'elle me contamine. Donc, il faut suivre les antirétroviraux et aussi le suivi des enfants à l'état prénatal. Quand elle est enceinte, il faut suivre les consultations prénatales pour éviter ça.
Fidèle auditeur de Radio Série, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire, qui marque un arrêt aujourd'hui sur le VIH-Sida. Pour approfondir le sujet, nous sommes en compagnie du docteur Soureya Hamann, médecin pédiatre et coordonnatrice du centre de traitement agréé pour la prise en charge du VIH à l'hôpital régional du Maroua. D'entrée de jeu, docteur, dis-nous, c'est quoi le VIH, c'est quoi le Sida? Et quelle est la différence entre ces deux appellations quand on sait que pour le profane, ces deux expressions renvoient souvent à la même maladie?
Alors, le VIH, quand on dit VIH, généralement, c'est une personne infectée par le virus, qui est un virus d'immunodéficience humaine. Maintenant, quand on dit SIDA, c'est déjà un stade avancé de la maladie. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est infecté par le VIH et qui a eu à faire des infections qu'on appellerait des infections opportunistes répétées à un stade 3 ou 4 de l'OMS.
Alors, d'après votre distinction, on comprend très bien qu'il y a une évolution du VIH, une évolution de la maladie. Quels sont les différents stades d'évolution du VIH et à peu près combien de temps est-ce qu'il faut pour qu'une personne atteinte du VIH développe le SIDA?
Alors, ça dépend déjà de beaucoup de paramètres. Il y a déjà le facteur âge, il y a également l'immunité en elle-même et il y a également le traitement antirétroviral. Pour un malade qui n'est pas sous traitement antirétroviral, si c'est un adulte, ça va aller vite, mais ça ira plus vite encore chez un enfant parce que l'enfant n'a pas une immunité mature comme chez l'adulte. Donc pour un adulte qui n'est pas sous traitement antirétroviral, ça peut prendre un an ou deux ans, il va développer le stade avancé du VIH, c'est-à-dire le stade SIDA. Alors chez les enfants, ça dépend de quoi? Déjà la période de la contamination. Si le nouveau-né est contaminé dans le ventre, c'est-à-dire dans l'utérus, ce sont des progresseurs rapides, c'est-à-dire que l'infection va très vite dès qu'il naît. Généralement, ça va très vite et il décède avant la première année de vie. On a maintenant les progresseurs intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui attrapent le VIH lors de l'accouchement, par exemple. Et 85% des cas, ce sont ces genres de progresseurs que nous avons. Et là, s'il n'y a pas de traitement, si l'enfant n'est pas pris en charge, il décède avant 5 ans. Maintenant, nous avons également la troisième catégorie qui sont les progresseurs très lents, moins de 5%, ceux qui sont infectés après l'accouchement, c'est-à-dire lors de l'allaitement maternel, par exemple. Donc, et eux, ils peuvent développer la maladie tardivement. tardivement, parce qu'ils sont infectés tardivement.
Alors, on va revenir un peu sur le cas des adultes. Donc, vous avez dit qu'un adulte qui attrape le VIH, il peut développer le sida au bout de 2 ans s'il ne prend pas d'antirétroviraux. Au cas où il prendrait ces médicaments-là, est-ce qu'il peut échapper au sida?
Alors, avec le traitement antirétroviral, c'est vrai que ça a révolutionné la prise en charge de la maladie. S'il est compliant au traitement et qu'il prend normalement son traitement antirétroviral, il peut échapper. Mais maintenant, c'est cette compliance-là qui demande un effort de la part du malade, de son entourage, mais également le suivi qui doit être adéquat. Mais si le suivi est adéquat, il prend bien son traitement antirétroviral, sa charge virale, elle est déjà supprimée. Donc, il peut vivre longtemps avant d'atteindre le sida, mais il peut également ne même pas passer par la phase sida.
Revenons aux origines, docteur. Le VIH, comment est-ce qu'il se transmet? Quels sont les modes, justement, par lesquels on attrape le VIH?
Alors, le mode de transmission, nous avons 3 grands modes de transmission du VIH. Il y a déjà le contact sexuel non protégé, c'est-à-dire toute personne qui a des contacts sexuels, des rapports sexuels non protégés, peut attraper le VIH. Le deuxième mode de contamination, c'est la transmission mère-enfant, c'est-à-dire une femme qui est infectée, qui n'est pas sous traitement antirétroviral, qui n'est pas suivie, peut également infecter son bébé. Et le troisième mode, c'est l'exposition à du sang contaminé. Ça peut être via une transfusion sanguine, ça peut être via une drogue intraveineuse lors des échanges des seringues, ou alors l'exposition du personnel médical, par exemple, ou alors des opérations médicales. Donc voilà les modes de transmission du VIH.
Est-ce qu'on peut attraper le VIH chez un coiffeur, par exemple?
Chez un coiffeur, tout dépend de comment le coiffeur stérilise son matériel déjà. Est-ce que c'est un matériel à usage unique? Parce que si le matériel est à usage unique, on ne peut pas attraper le VIH. Maintenant, si c'est du matériel souillé et que chacun passe chez ce coiffeur, oui, on peut l'attraper.
D'accord. Alors, docteur, quel est le risque de transmission du VIH en embrassant par la bouche ou avec la langue?
Alors, en embrassant, en partant du principe que le VIH ne se retrouve pas ou se retrouve de façon très minimale au niveau de la salive, en principe, on ne devrait pas attraper le VIH en embrassant quelqu'un. Mais il faut savoir qu'il y a des risques si cette personne infectée ou son partenaire non infecté a des plaies au niveau de la bouche ou alors un saignement au niveau de la bouche, oui. On peut l'attraper. Mais s'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de plaie, il n'y a pas de saignement, on ne peut pas attraper le VIH en embrassant une personne.
Alors, docteur, comment se manifeste concrètement le VIH? Quels en sont les principaux symptômes?
Alors, la manifestation, elle dépend du stade déjà à laquelle on voit le malade. Et il n'y a pas de manifestation clinique typique, c'est-à-dire du genre, dès qu'on voit, on dit que oui, c'est le VIH à 100%, non. Donc, il y a des signes cliniques qui peuvent orienter. Donc, par exemple, l'OMS a classé le VIH en 4 stades. Le stade 1, c'est-à-dire le malade peut être asymptomatique au premier stade. Il peut se présenter, il n'a aucun symptôme. Comme il peut se présenter, il présente des adénopathies multiples. Donc, ça peut orienter.
En français, facile s'il vous plaît, docteur, adénopathie.
Ce sont des tuméfactions, des ganglions qu'on appelle là, qui peuvent sortir sous le menton ou bien au niveau axillaire ou alors au niveau de la région inguinale. Ce sont des tuméfactions, des boules multiples. C'est ça des adénopathies. Alors, au stade 2, on peut avoir quelques manifestations. Par exemple, quelqu'un qui présente le zona, par exemple. Donc, doit également se faire dépister. Parce que c'est un signe qui peut orienter vers le VIH. La tuberculose également pulmonaire. Aujourd'hui, tous nos malades qui sont tuberculeux doivent bénéficier systématiquement d'un dépistage VIH parce que le VIH peut se manifester également par la tuberculose.
Lorsqu'un patient se présente chez vous et que vous lui diagnostiquez justement le VIH, comment se passe sa prise en charge? Est-ce que cette maladie peut être soignée?
Alors, je commence par être soignée. Tout dépend de ce qu'on entend par être soignée. Elle peut être soignée, mais elle ne peut pas être guérie actuellement. parce qu'il n'y a pas de traitement où on dit qu'on a traité et guéri le malade. Mais la prise en charge, je pense en 2021, il y a un décret du ministre sur ce qu'on appelle les user fees, c'est-à-dire c'est un paquet minimum de services pour les patients vivant avec le VIH. Et dans ce paquet, nous avons le dépistage qui est gratuit pour ces malades sur tout l'étendue du territoire national. Les dossiers médicaux qui sont également gratuits. Le traitement antirétroviral qui est 100% gratuit. Ensuite, le suivi, parce que le malade qui prend le traitement antirétroviral doit être suivi. Et dans ce suivi, nous avons la charge virale qui est également gratuite. La consultation et le suivi de ces malades sont gratuits dans les unités de prise en charge du VIH. Au-delà de ça, il y a également les femmes enceintes. Donc, pour toutes les femmes enceintes, la première consultation prénatale, elle est gratuite. Pour la femme séropositive, donc au décours de la première consultation prénatale, si sa sérologie est positive, ou alors si la femme est déjà connue VIH, ses consultations prénatales sont gratuites. Maintenant, il y a également quelques examens, notamment la numération formule sanguine, l'urée, la créatinémie, la glycémie également, pour la femme enceinte, sont gratuites. Le test de dépistage également, il est gratuit. Le traitement antirétroviral, sa charge virale également. Mais l'enfant également, après l'accouchement, dont la prise en charge du bébé également est gratuite, c'est-à-dire la prophylaxie qu'il reçoit. Et également le suivi, parce qu'il faut faire des examens rapprochés. Souvenez-vous, nous avons dit qu'il y avait des progresseurs lents, rapides et intermédiaires. Donc, pour pouvoir détecter ces enfants, il y a un bilan de suivi qu'il faut faire. Et ce bilan de suivi, il est gratuit.
En résumé, toute personne porteur de VIH reçoit un traitement gratuit sur toute la ligne. S'il développe des pathologies, tout à l'heure, vous parlez de la tuberculose, par exemple. Est-ce qu'à ce moment-là, le traitement devient payant ou ça continue d'être gratuit?
Alors, bonne nouvelle pour la tuberculose. Nous avons le programme de la tuberculose travaille en étroite collaboration avec le programme VIH. Actuellement, le traitement de... Ça a même d'abord toujours été comme ça. Donc, quand je dis actuellement, c'est beaucoup plus dans le cadre du dépistage. Parce qu'auparavant, pour les tests de la tuberculose, c'était payant. Mais actuellement, c'est gratuit. Et le traitement, il est gratuit. Maintenant, s'il y a d'autres infections comme la toxoplasmose, comme l'herpès, comme autres pathologies opportunistes, là, dans le cadre du VIH, ça doit être payant. L'insuffisance rénale, le diabète, l'hypertension, là, le malade doit payer.
C'est suffisamment clair parce qu'effectivement, il y a souvent des quiproquos à ce niveau, des patients qui bénéficient d'un suivi gratuit pour le VIH et qui pensent que toutes les maladies qu'ils vont développer au cours de ce traitement-là, ils auront également droit à un traitement gratuit. Je pense que votre explication est suffisamment claire. Alors, revenons un peu sur les antirétroviraux, docteur. Concrètement, comment sont administrés ces médicaments-là? Est-ce que le patient les prend chaque jour? Quel est en moyenne le dosage des médicaments qu'un patient qui suit un traitement d'antirétroviraux doit prendre par mois ou bien par semaine?
Alors, actuellement, le traitement antirétroviral, nous avons évolué. Si on essaye de voir en arrière, il y a 10 ans, on est passé de la monothérapie, c'est-à-dire une seule molécule. Ensuite, on est passé à la bithérapie. Actuellement, on est passé à la trithérapie. Et en termes de comprimés, de molécules, les chercheurs ont essayé d'alléger la tâche, donc pour aider le malade à être compliant. Parce qu'imaginez quelqu'un qui a 4 comprimés du traitement antirétroviral et qu'il n'a pas que le VIH, il est hypertendu, il est diabétique, ça lui fera peut-être 10 ou 15 comprimés qu'il doit prendre chaque jour. Ça pèse. Donc actuellement, nous sommes à des protocoles pour la première ligne où le malade prend un seul comprimé par jour. Maintenant, en dehors de la première ligne, il y a la deuxième ligne. C'est-à-dire, s'il y a une résistance à la première ligne, on passe à la deuxième ligne. La deuxième ligne, malheureusement, pour l'instant, c'est 2 comprimés. Donc, c'est-à-dire un comprimé le matin, un comprimé le soir. Et là, nous revenons encore de loin.
Merci, docteur. Alors, on est également dans un environnement, pas que dans la région de l'extrême nord, d'ailleurs, dans tout le Cameroun, où la médecine traditionnelle a pignon sur eux. Est-ce qu'à votre connaissance, il existe des solutions thérapeutiques traditionnelles dont l'efficacité est avérée pour combattre le VIH ou alors pour maintenir le patient dans un état où il ne développe pas le sida?
En termes de médecine traditionnelle, je ne m'y connais pas trop. Et à ma connaissance, étant coordonnatrice du CTA de l'hôpital régional de Marois, et suivant les malades, je n'ai jamais vu un malade complètement guéri, donc revenant me dire qu'il a été guéri par la médecine traditionnelle. Donc à ma connaissance, jusqu'à présent, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement qui guérit le VIH.
Vous êtes quand même au courant qu'il y a beaucoup de naturopathes qui se vantent de guérir cette maladie?
Oui, et qui nous pose parfois beaucoup de problèmes, parce que parfois il y a un malade qui prend son médicament, il est compliant au traitement, un beau jour il nous revient, il nous ramène des médicaments pour nous dire qu'il est guéri. Et un an ou six mois après, on réhospitalise le malade parce que le malade développe des infections opportunistes. Nous, nous ne demandons qu'à travailler avec ces naturopathes. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui a développé un traitement, qui s'adresse au ministère de la Santé publique, qui est quand même assez ouvert, donc qui pourrait apporter sa pierre également avec des preuves. Mais là, beaucoup de malades abandonnent le traitement et à la longue, ils décèdent dans un état de maladie avancée et dans une souffrance atroce. Alors que nous savons qu'il y a le traitement antirétroviral, qu'il y a ceux qui prennent le traitement ont une longévité.
Tout à l'heure, lorsque nous abordions les modes de transmission du VIH, on a parlé de la transfusion sanguine. Et effectivement, beaucoup de personnes voient de mauvais œil cette transfusion sanguine à cause justement du risque d'attraper le VIH. Quelles sont les précautions dans le milieu médical, lorsque vous pratiquez votre métier, quelles sont les précautions que vous prenez pour éviter que des personnes contractent le VIH par la transfusion sanguine ou même lors des différentes opérations médicales?
Au niveau du centre de transfusion sanguine de tout le Cameroun, il y a des mesures qui sont prises, des mesures de sécurité, parce qu'intentionnellement, on ne va pas administrer du sang contaminé à un malade. Et il y a également ces mesures de précaution qui sont prises, c'est-à-dire un donneur qui vient pour donner du sang, ce donneur, il est testé. Au-delà du VIH, il y a également l'hépatite virale B et l'hépatite virale C, et même le paludisme. Donc toute personne qui est testée et qui est positive ne doit pas être prélevée. Maintenant, dans le cadre des campagnes de masse, parfois, quand on prélève, on n'a pas le temps de tester tout le monde, mais on teste les poches de sang avant de les sauvegarder. Donc, tous les tests qui ont été positifs sont détruits. Et au-delà de ça, au niveau des centres de transfusion sanguine, je ne sais pas pour certains, mais au niveau de l'hôpital régional, au-delà des tests rapides qu'on fait, c'est-à-dire le Determine, qui est le premier test, et puis le Shanghai, le deuxième test, on a un troisième test qui est plus performant, l'ELISA, qui est au niveau de la banque de sang, qui nous permet de détecter précocement dont ces sangs infectés et ils sont détruits. Mais n'empêche qu'il y a un risque résiduel, même en Europe, on ne peut pas dire qu'on est à 100% protégé. Parce que en médecine, quand vous allez, vous dites, le médecin vous pose la question dans les antécédents, est-ce que vous avez été transfusé? C'est un facteur de risque d'attraper le VIH, mais les précautions sont prises au niveau de l'hôpital.
Quels sont les avantages à connaître d'abord son statut sérologique et quand, comment, où faire un test de dépistage? Est-ce qu'il y a des facteurs auxquels, lorsqu'on est exposé, il faudrait systématiquement faire un test pour se rassurer qu'on n'a pas été infecté?
Alors, les avantages déjà du dépistage, c'est d'abord sauver une vie, sauver sa propre vie. Parce que si on connaît son test, on l'a fait, il est positif, ça nous permet d'être pris en charge très rapidement, de commencer très tôt le traitement. Et qui dit commencer très tôt le traitement, c'est se donner toutes les chances de s'en sortir. Parce que les études ont démontré, plus on prend son traitement tôt, plus on a des bons résultats. Deuxièmement, c'est protéger également sa famille et son entourage. Parce que si on connaît son statut, on est positif, on prend son traitement antirétroviral correctement, ça veut dire qu'on baisse la virémie, c'est-à-dire le nombre de virus au niveau du sang. La charge virale, elle sera indétectable. Qui dit charge virale indétectable, ça veut dire qu'on transmet moins la maladie.
Je croyais que ça voudrait dire qu'on ne transmet pas du tout la maladie.
Il y a toujours un risque résiduel. Et pour les avantages, lors du dépistage, ça nous permet également de dépister d'autres maladies. Par exemple, si on vient, on se fait dépister, on est positif, ça va pousser le médecin à demander un bilan. Et ces bilans, il y a le bilan de l'hypertension, le bilan de du diabète. Donc, ça permet également de connaître sa santé et puis de faire des économies. Alors, pour ce qui est du test, quand ou comment le faire, pour le test du dépistage, il est gratuit. 100% gratuit dans tous les centres de prise en charge, quel que soit l'hôpital, les centres de santé au niveau du plan national. Comme je le disais tantôt, il y a un décret ministériel, donc il rend gratuit les tests. Quand le faire? Déjà pour toute personne qui est sexuellement active, l'idéal serait de faire son test de dépistage, de connaître sa sérologie. Si on n'est pas sexuellement actif, maintenant on décide de se marier par exemple, le bilan prénuptial, on devrait demander son test, connaître son statut, connaître celui de son partenaire. Si jusque-là, on n'a jamais fait, quand on tombe enceinte, on va en consultation prénatale, il va falloir le faire. Le OU, c'est dans tous les centres de santé. Quels que soient les centres de santé, on peut le faire. Je peux vous assurer qu'ici, à l'hôpital régional de Marois, on le fait dans n'importe quel service. Donc, vous pouvez venir soit au niveau du CTA. Si vous ne vous sentez pas à l'aise au niveau du CTA, nous avons deux laboratoires également qui le font 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a également des activités communautaires parfois qui sont menées, c'est-à-dire c'est l'hôpital qui va vers la communauté pour faire ses dépistages. Là également, on peut saisir cette occasion pour faire son dépistage.
Merci pour toutes ces clarifications, docteur. Alors, revenons encore sur un autre mode de transmission du VIH, la transmission de la mère à l'enfant. Lorsque une femme est porteuse du VIH et qu'elle doit donner naissance à un enfant, est-ce qu'il y a un moyen de prévenir qu'elle transmette la maladie à son bébé?
Oui, il y a des moyens pour éviter la transmission mère-enfant, qu'on appelle le PTME, la prévention de la transmission mère-enfant. Souvenez-vous, j'ai dit qu'il y a un décret ministériel, justement, portant sur la gratuité de suivi de ces femmes. C'est justement pour éviter cette transmission mère-enfant, déjà en dépistant très tôt. Si la femme elle est positive, on la met sous traitement antirétroviral. Et souvenez-vous, nous avons dit, plus la charge virale est indétectable, moins la transmission sera faite. Et ça tient également compte des femmes enceintes et les femmes allaitantes également. Maintenant, il y a des précautions également lors de l'accouchement qui sont prises pour éviter cette transmission mère-enfant. Et à l'accouchement du bébé, le bébé doit être également sous traitement antirétroviral, qu'on appelle la névirapine, systématiquement, et puis le suivi également de cet enfant à travers la PCR qui est faite à 6 semaines pour voir si cet enfant est infecté. S'il n'est pas infecté, on le suit tranquillement. À 9 mois, on fait une deuxième PCR. Maintenant, à 18 mois, on peut faire la sérologie définitive, HIV, pour voir si cet enfant est infecté ou pas infecté.
En résumé, une femme peut être porteuse du VIH et donner naissance à un enfant totalement sain.
Oui, oui, oui. Et nous nous battons pour ça. C'est notre cheval de bataille actuellement. Donc une femme infectée peut donner naissance à un enfant sain.
Alors docteur, malgré tous les efforts du gouvernement, on assiste toujours à des scènes où il y a des personnes qui pensent que le VIH est une fatalité et qui parfois malheureusement décident de le propager délibérément à leur partenaire sexuel. Quels conseils pouvez-vous donner à ces personnes-là?
Alors, pour ceux qui décident délibérément de propager la maladie, on se dit qu'il y a un déni déjà au niveau de sa sérologie. Dans un premier temps, dans les normes, on ne doit pas le laisser. Donc, on doit le recadrer au niveau des formations sanitaires avec un soutien psychologique. Le VIH n'est pas une fatalité actuellement. Avec le traitement antirétroviral, le VIH est comme, je dirais, une maladie chronique, comme l'hypertension, comme le diabète également. Et ces personnes ne le savent pas, c'est très dangereux également de se livrer à ce genre de pratique, parce que chacun a son VIH, chacun a ses sous-types également de VIH. S'il est sous traitement antirétroviral, plus il va avoir de partenaires sexuels, plus il y aura des formes de résistance qu'il peut attraper. S'il était sous antibiotiques de première ligne, très facilement, il peut être résistant à cet antibiotique. Il va passer en deuxième ligne. Et s'il ne fait pas attention, il va passer en troisième ligne. Et c'est très dangereux, non seulement pour la population à qui il partage, mais également pour lui-même. Et la maladie également, il ne sera pas stable, parce que sa virémie va augmenter également et il va passer de stade 1, s'il était au stade 1, au stade 3, au stade 4, très rapidement.
Alors, où en est la recherche scientifique justement pour trouver un vaccin efficace contre le VIH?
Bon, pour ce qui est de la recherche, il y a des avancées en termes de traitement antirétroviral, mais en termes de vaccination, actuellement, il n'y a pas de vaccin contre le VIH. Je dis en termes de traitement antirétroviral parce que actuellement, chez les Occidentaux, nous avons le traitement antirétroviral sous forme injectable. C'est-à-dire, le patient peut venir prendre son injection tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Actuellement, c'est possible en Occident, mais chez nous, on est encore à la forme des comprimés. Mais avec la venue du COVID-19, nous gardons espoir. Nous espérons qu'il y aura des avancées en termes du vaccin. Et je pense que ce n'est pas les chercheurs qu'il faut incriminer, c'est le virus quand même. Parce que c'est un virus très intelligent qui mute à chaque fois.
Je reviens légèrement en arrière, docteur. Est-ce que c'est possible d'avoir un rapport sexuel non protégé avec un porteur de VIH et ne pas se faire contaminer si on a pris justement ces médicaments prophylactiques dans les heures qui suivent?
Il y a toujours un risque résiduel. Donc l'idéal serait de se protéger, même si le malade est sous traitement antirétroviral. Parce que le fait qu'il soit sous traitement antirétroviral, vous ne connaissez pas quelle est sa charge virale. Est-ce qu'elle est indétectable? Est-ce qu'elle est élevée? Parce que plus la charge virale elle est élevée, plus le risque de contamination il est grand. Maintenant, si c'est un malade qui vient à peine de commencer son traitement antirétroviral, il ne peut pas avoir une charge virale supprimée. Donc l'idéal serait d'avoir toujours des rapports sexuels protégés.
Alors, docteur, beaucoup de patients souffrant justement de VIH se plaignent de stigmatisation. Est-ce que vous rencontrez ce problème ici? Si oui, comment est-ce que vous faites pour le surmonter?
Alors, c'est le cheval de bataille du CTA, de l'hôpital régional de Maroua, dont nous faisons tout pour mettre à l'aise nos patients. Mais n'empêche qu'au niveau des quartiers, au niveau de l'hôpital, il y a quand même la stigmatisation, dont certains malades sont même freinés par la stigmatisation, qui n'arrivent pas à venir prendre leur traitement antirétroviral. Donc c'est déjà de rassurer ces malades que c'est pas parce qu'on vient au niveau de l'hôpital et quand on vous regarde qu'on saura que vous avez le VIH, que c'est écrit au niveau de votre front. Non, du tout. Ou alors, pour certains, non, quand on vient, on se dirige au niveau du centre de traitement agréé, on sait qu'on a le VIH. Non, pas du tout, parce que au niveau du centre de traitement agréé, j'ai également mon bureau, je suis médecin pédiatre, je peux recevoir des malades qui n'ont pas de VIH. J'ai également des médecins généralistes qui peuvent recevoir des malades qui n'ont pas de VIH. Donc, que les malades soient réconfortés. Nous avons un gros problème dans le suivi des malades. Il y a certains malades qui ne sont pas encore conscients, qui négligent le traitement antirétroviral. Et cette négligence, elle n'est pas bonne. Parce qu'à la longue, ça crée des résistances. Et actuellement, au niveau de la région du Septentrion, nous avons juste 2 lignes de traitement, la première ligne et la deuxième ligne. C'est-à-dire, si on a une résistance à la première ligne, on met le malade sous la deuxième ligne. Maintenant, s'il y a une résistance à la deuxième ligne, il va falloir aller au niveau central, c'est-à-dire soit à Yaoundé, soit à Douala pour le moment, et pour faire le test de résistance et pour être placé également sous troisième ligne qui n'est pas gratuite du tout, qui est payante. Donc la charge virale, nous avons du mal à mettre la main sur les malades suivis, par exemple au niveau du CTA et même le traitement antirétroviral. Comme je l'ai dit, il y a ceux qui ne sont pas conscients ou alors ceux qui ont peur de la stigmatisation. Donc j'encouragerai les malades à venir prendre le traitement antirétroviral, à se faire suivre, respecter ses rendez-vous, mais également faire la charge virale. C'est gratuit. Vous venez juste vous faire prélever. Après, on vous remet votre résultat. Vous savez si la virémie, elle est élevée ou si la virémie, elle est basse. Ça nous permet également de suivre et d'améliorer également la qualité de vie du malade.
Alors, docteur, on arrive pratiquement au terme de cette émission. Pour sortir, quels conseils pratiques pouvez-vous donner à nos auditeurs pour les aider à éviter le VIH?
Alors, pour ceux qui sont, entre guillemets, vierges, peut-être non, qui n'ont pas de rapport sexuel, qu'il faut rester chaste jusqu'au mariage, ça serait l'idéal. Pour ceux qui ont déjà des rapports sexuels, il faut, comme on le dit, sortir couvert, c'est-à-dire ne pas avoir un rapport sexuel non protégé. Il faut toujours se protéger. Et si jamais on a eu des rapports sexuels non protégés, il faut venir dans une formation sanitaire, le déclarer pour qu'on se fasse dépister et qu'on soit mis sous un traitement prophylactique antirétroviral et qu'on soit suivi. Alors, pour ceux qui veulent se marier, de nos jours, on ne peut pas se marier sans faire son test de dépistage. Non, ne pas connaître son statut ou celui de son partenaire est une erreur très grave.
Parfait. Alors, docteur, nous arrivons effectivement au thème de l'émission, mais avant de vous laisser partir, on a beaucoup d'auditeurs qui sont plus à l'aise avec le Fofoldé. Est-ce qu'on peut avoir un tout petit résumé de ces conseils pratiques-là en langue Fofoldé, s'il vous plaît?
En bolwani hande ha la VIH ha la sida goman yimbe fere ngadata difference akunde VIH be sida idi fu be biya sida be biya VIH ba VIH kam goddo to wodi gildi man der iyammo yo sida bo bana wi go gildi man don amma nyaw man fabbi e mako odi nyawji fere ngurtoto do on difference sida be VIH yo hande lekki non je hurgata be biya kai mi hoci lekki do ha fattude walla wayne wari wiyam hebi lekki do hurga VIH mi yambita bana pabboje walla bana meningite do kan wala jotta dum lekki soyugo non to en poti wigo soyugo me nafan bo ngam to goddo do hoca lekki man kam foti sufrata foti viva normalement. Biya mardo an kam tension wala diabète to do hocha lekki mum do suiva nina wala problème e hander suivi man be hokkugo lekki man be dépistage man daga 2021 do ministre santé gurtindo de rewol bana test man mere dossier je mabbititta man mere traitement antirétroviral man bo mere suivi mabbe bana charge virale do bo mere be ngadata ha hôpitaux ji chak e ba goddo to redo redu jobo consultation di mon mère et ton mari VIH et au di examen di bana numération bana urée créate bana charge virale man a debo redu jo robo mère inga dantamo be dépistage mako be suivi mako to mo dany bingel bo di siro be ngokata mon e virapin be biata siro man je faddago nyaw man ha bingel mako siro man gan bo mère largo bingel mako be examine go bingel mako man pofu mere ha hopitoji Cameroun man chak ministre gurtindo derewol man e jottakam to bawodi nyawji fere kauti mi wodi VIH amma mi wodi tension mi wodi diabète wala mi wodi nyaw fere non be detecti do kam na mere do kam moifu yotto l'hôpital yoba consultation mum be ndara dum wada examen jiman kanyum so datale dem hodo bana hande hokkugo iam ba wodbe be don biya to be gokki iam hoygo iam wala hokkugo iam do foti goddo nanga VIH foti kam amma ha l'hôpital ji be ko cha disposition ji man don faddago nyauman ba goddo to wari be donneur mudum be kochi i am donneur man be tawi kai i am dam dam nyaudam be kochata i am ha goddo man wala to be testi poche man be tawi a poche man do don be nyau VIH be detruisan poche man examen di man bo be don gada dum ha banque de sang di pat yo hande ko yameten ummatore men bana de nyauman jainta ke jamum ha meden wala kurgumen anji me na dum fatalite ka don ba derke en meden to be bangaka be ndento ko e mabbe ngam nyau kam don yasi yo e to be don gancha non be don kauta be worbe bo do kam den kam be utilize preservatif ngam to be utilize preservatif be poti be paddo nyau majo e to hande wodi bikkoy men gidi bango chaka mabbe be putay be jabe bangra non be gadai test VIH ngam hande min don dara dum jur ha opitoji do bikkoy derken be banga be anda a o do wodi nyauman dum warta dum problem ha couple donc ko yimbe ngeloto kam iddo ko yimbe bangra kam be gara be gada test mabbe moy fu anda statut mudum ngam andugo statut mudum bana wigo asovi vimada afadda ke horema afadda ke famimada bo ngam to be andi deja post testomada wurta ke positif a hochan law lekki to a fuddi hochugo law lekki bo soddugo nyaw majum to a soddi nyaw man bo sa veut dire que a contaminata donc ko a contaminant bo na bamo hochata lekki o hochata kurguma o vaccin be don bolo hala vaccin ko wadi be kebay vaccin ko wadi be kebay vaccin be don ko hala vaccin man be covid to en dar be kuwi jur do hala vaccin ji yo hala VIH man na da bitit go vaccin man tan woni problem hala virus man gan virus man bonga chat nga jamu don be do dabita amma ha jotta kam vaccin kam wala lekki man tan min mari lekki man bo mere ha l'hôpital regional be ha hôpital ji Cameroun chak.
Docteur Souria, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Radio Océan.
Merci à vous. Nous espérons avoir sensibilisé une grande partie de la population.
Amis auditeurs, nous nous approchons de la fin de cette autre édition de Santé pour tous qui a fait un focus aujourd'hui sur le VIH-Sida. Grâce à l'expertise du docteur Souria Hamann, médecin pédiatre et coordonnatrice du Centre de traitement agréé pour la prise en charge du VIH à l'hôpital régional de Maroua, que nous remercions une fois de plus pour s'être prêté à cette émission de sensibilisation. Comme principaux points à retenir, le VIH est une maladie grave, mais dont les avancées scientifiques permettent aux personnes infectées de mener une vie saine et prolongée, à condition de suivre convenablement le protocole de traitement auquel on est soumis. Pour éviter cette maladie, il faut pratiquer l'abstinence et la fidélité. À défaut, il faut éviter les rapports sexuels non protégés. En cas de comportement à risque, il faut immédiatement se rendre dans une formation sanitaire pour un dépistage et une prise en charge appropriée. Le VIH n'est pas une fatalité et on ne devrait plus en avoir honte, se cacher et mourir à petit feu. Pour ceux qui prendraient un vilain plaisir à stigmatiser les personnes séropositives, vous devez savoir que cela est déshonorant et inhumain. Le VIH est une maladie comme toutes les autres et nous ne devons pas traiter les personnes malades comme des parias. Fidèle auditeur, nous vous rappelons une fois de plus que vous avez désormais la possibilité d'interagir avec nous. Si vous souhaitez apporter une contribution, poser une question, même réagir sur le thème de ce jour, vous pouvez le faire par WhatsApp en envoyant soit un message, soit un voice au 695 14 63 62, 695 14 63 62. La mise en onde de cette émission a été possible grâce au concours de Maxino à la technique, David Bayan à la coordination et moi, Stéphébi, au micro de présentation. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre édition de Santé pour tous. D'ici là, gardez à l'esprit que prévenir vaut mieux que guérir. À très bientôt.